Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de la radio Adoration. Ces petits messages envoyés régulièrement ne sont pas des messages qui font partie vraiment de la radio Adoration, mais plutôt des petits messages d'exhortation, d'encouragement qui viennent sur mon cœur le matin, à mon réveil ou encore pendant la prière le soir avant d'aller dormir, tout ça. Et c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Hier, j'avais un message à livrer. Malheureusement, les problèmes d'Internet, les problèmes de courant ont fait en sorte que j'ai pas pu livrer ce message. Donc, on y va aujourd'hui pour essayer d'apporter le même message que Dieu avait mis sur mon cœur. Mais c'est lui-même qui donne la direction. C'est lui-même qui donne la motivation, l'influence pour arriver à dégager un message qui va vraiment venir de son esprit à lui. Alors Seigneur, merci encore une fois aujourd'hui de m'utiliser pour pouvoir annoncer ta parole de vérité, exhorter le cœur des gens, consoler, encourager, mais aussi reprendre et censurer dans certaines mesures à l'occasion concernant ton évangile tel qu'il est écrit justement dans ta parole, Seigneur. Et ce travail d'évangéliste que tu annonces, eh bien, Seigneur Dieu, je le fais avec une grande humilité parce que ces paroles, cette pensée ne viennent pas et ne doivent pas venir de la chair de l'homme, mais bien de toi-même seul, ô Éternel. Alors je te prie de toucher ma bouche, ma langue, et de parler au travers ma bouche à moi, Seigneur Dieu, pour livrer les messages que tu veux livrer, et de me donner la sagesse et l'intelligence d'utiliser des paroles, des mots qui parlent avec fluidité et cohérence, mais également avec douceur et sagesse, afin que ton message puisse passer le mieux possible au travers les personnes qui entendent ce message ce matin. Alors à tous et à toutes, un gros merci d'être à l'écoute. Vous savez que ces enregistrements sont vraiment faits avec les moyens du bord. Vous entendez toutes sortes de bruits derrière. Vous pourrez entendre des bruits de moto à l'occasion, des bruits de radio avec toutes sortes de musique qui passent. C'est vraiment fait à la bonne franquette. Il n'y a aucun mixage. Les erreurs sont là pour demeurer. On est vraiment à la guerre, comme on dirait, parce que oui, en effet, comme le disent les gouvernements actuellement au travers le monde avec le coronavirus, nous sommes en temps de guerre. Et non seulement nous sommes en temps de guerre sur le plan médical, sanitaire, sur le plan social, sur le plan de la science, sur le plan économique, mais nous sommes aussi en guerre sur le plan spirituel. De sorte que il y a un lien, une corrélation entre le monde spirituel et puis ce qui arrive dans le monde. Toutes nos actions que nous faisons dans le monde, dans notre chair, ont des répercussions dans le monde spirituel et vice-versa. Alors, ce que nous faisons, ce que nous avons fait par le passé, ont eu des répercussions dans le monde spirituel, de sorte qu'à un certain moment, eh bien, les choses rebondissent sur nous au niveau naturel, au niveau charnel. Tout ça à cause de quoi le monde spirituel a été bouleversé. Et moi, il y a un passage que j'avais lu en 2012 à l'heure de l'émission « Le salut pour tous » que j'animais directement à partir de la République dominicaine avec ma charmante épouse. C'était dans Genèse 15, au verset 16. « L'important n'est pas tant le contexte que ce qui est dit avant ou après, mais c'est ce petit bout de phrase qui, lorsque j'ai lu ça, c'est comme si j'étais dans une pièce tout noire et qu'on avait allumé des gros projecteurs, 25 000 watts chaque projecteur, et puis qu'il y avait des centaines de projecteurs. Il est écrit dans Genèse 15, verset 16, « Car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son comble. » Alors là, ici, vous allez dire, oui, mais il ne parle pas d'Israël, il parle de l'iniquité des Amoréens qui n'est pas encore à son compte, mais les Amoréens sont des humains Ils sont des êtres humains, font partie de la créature de Dieu, tout ça. Et il est bel et bien écrit qu'ils n'ont pas atteint l'iniquité. Leur iniquité n'a pas encore atteint leur comble. Ça veut dire ça, frères et sœurs, que de la même façon que lorsque nous allons dans une station-service, nous devons faire le plein de notre voiture. Actuellement, il y a bien des gens qui sont heureux parce que le pétrole a baissé, le prix de l'essence a baissé. C'est un des bienfaits du coronavirus actuellement. Mais pour revenir au sujet, lorsque nous allons dans une station-service remplir le réservoir dans notre voiture, eh bien, nous avons un indicateur qui indique vide, encore ou encore un quart de réservoir, j'allais le dire en anglais, un quart de réservoir, un quart ou encore plein ou full, si vous préférez. Et là, notre réservoir de péché, c'est la même chose. Nous avons un indicateur. Dieu a toujours les yeux sur cet indicateur mondial du péché. Et l'indicateur, depuis le début du péché par Adam et Ève, n'a cessé de monter. Premier quart, demi, trois quarts. Et là, eh bien, nous approchons du segment qui dit que le réservoir est plein. Et après que le réservoir est plein, il y a toujours également la réserve qu'on appelle en mécanique qui continue à se remplir sous le moteur. Ça, c'est ce qui permet de continuer à rouler un peu si on manque d'essence dans le réservoir. Je ne donne pas de cours de mécanique, mais c'est pour vous expliquer le principe. Alors là, nous, on est rendu que le réservoir est plein. Et là, actuellement, eh bien, c'est la réserve que nous commençons à remplir. Et là, je parle du péché. Notre réservoir spirituel, lui, notre raisonnement, notre savoir, notre réservoir spirituel, lui, en revanche, eh bien, nous roulons sur la réserve. Le réservoir est vide et nous roulons sur la réserve. Et ça, ce passage-là m'avait vraiment, 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 vraiment marqué parce que je m'étais dit, waouh! Alors Dieu a imposé des limites. Parce que Dieu, vous savez, dans la Bible, il parle souvent de poids. Le bon poids pour la bonne mesure, la bonne quantité pour la bonne mesure. Donc, les poids, les mesures sont très importantes pour Dieu et le péché ne fait pas exception à ça. 2 Samuel 24 nous dit que l'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, de Dan à Beersheba. Il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » Ça, c'est à l'époque où est-ce que l'Éternel avait encore de la compassion, de l'amour, de l'empathie, pas qu'il n'en ait plus encore pour sa création, mais à l'époque, le réservoir était peut-être, bon, même pas au quart, le réservoir du péché. Mais n'empêche bien que pour que son peuple se réveille, voit leur état de pécheur, Dieu avait déjà envoyé la peste en Israël. Comme il l'a fait à plusieurs moments dans l'époque, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, et comme il l'a fait au travers beaucoup d'autres événements interplanétaires, comme, non pas interplanétaires, mais bien mondiales, comme les catastrophes naturelles, les cyclones, les ouragans, les maladies, dont justement le coronavirus qui nous frappe de plein fouet ces temps-ci pour nous indiquer des choses. Vous savez, Deutéronome 4 nous a dit, entre autres, et là, je n'irai pas dans tout le passage de Deutéronome 4 à partir du verset 28, il est écrit, « Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. » Là, votre premier réflexe à vous, c'est de penser aux idoles, aux statues qu'on retrouve dans les églises catholiques. Eh bien, ça va plus loin que ça, parce que les dieux étrangers, l'idolâtrie, ça va dans toutes les directions du péché. On peut parler d'idolâtrie, ça peut être la drogue, la boisson, ça peut être le sexe, ça peut être la dépendance à toutes sortes de choses, ça peut être le matérialisme, ça peut être la richesse, la cupidité, bref, toutes sortes de choses comme ça. Donc, lorsqu'on sert des dieux étrangers, eh bien, ce sont des dieux qui sont ouvrages de main d'homme, le résultat de la culture humaine, ok, et de toutes ces choses qui ne peuvent pas réagir, qui ne peuvent pas voir, sentir, bouger, faire quoi que ce soit. Alors c'est là aussi, dit l'Éternel, que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, écoutez bien ça, frères et sœurs, au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au travers ce qui arrive actuellement, Dieu nous parle. Dieu nous parle, frères et sœurs en Christ, au travers notre détresse actuelle, notre angoisse. Dieu nous parle. Pourquoi il nous parle ainsi? Parce que nous avons désobéi, nous avons servi des faux dieux, nous avons marché dans l'idolâtrie, l'impudicité, nous avons marché dans l'impureté, nous avons marché dans toutes sortes de mauvaises voies, de toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est pourquoi que justement, lorsque on regarde plus loin, on va dans Hébreux 4, on retrouve ça également dans Hébreux 3, 15 ou encore même dans les psaumes. Mais là, on va se concentrer sur Hébreux 4. Il est écrit, écoutez la compassion de Dieu. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, on parle du royaume des cieux, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Je répète ça. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après comme il a dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. Dieu fixe un jour nouveau. Ce jour nouveau, il est là devant nous depuis le mois de décembre, mais encore plus présent devant nos yeux, notre conscience, notre âme, depuis les 10-12 derniers jours. Où est-ce que là, les gens réalisent vraiment qu'il se passe quelque chose? Parce qu'au début, lorsque le coronavirus est sorti, les gens se disaient, bon, c'est une maladie qui va passer comme un autre. Alors que ce n'est pas le cas. Depuis 10-12 jours, peut-être 15 jours maximum, les gens réalisent que là, nous sommes dans quelque chose de sérieux. Que Dieu nous parle, que Dieu a des choses à nous dire. Et Dieu dit comme ça, je fixe un nouveau jour. Ça, c'est la réserve, notre réserve d'essence à nous, là, pour continuer à rouler et avancer vers Dieu, là. Le réservoir, il est vide maintenant, là. Nous sommes sur la réserve. Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, frères et sœurs en Christ, je vous en supplie. Je vous en supplie, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que un des problèmes de la société actuelle, et ça c'est depuis le début des temps, mais là on va parler pour notre temps à nous, parce que les autres ils sont morts, ils sont décédés, on ne peut plus rien pour eux, mais on peut encore toujours quelque chose pour nous-mêmes. Mais la Bible a dit que ce qui est arrivé par le passé arrive et arrivera encore. Alors à ceux qui disent, oui mais il y a eu des maladies, des catastrophes par le passé, oui il y en a eu. Il y en a encore, il va en arriver encore. Mais à chaque fois, il faut garder l'esprit ouvert de dire qu'il y a quelque chose, un message essentiel dans ça qui nous apporte, nous amène, qui nous siphonne à vouloir nous attirer à Dieu. C'est vraiment, il faut vraiment avoir cette conscience. Et il est écrit ici, dans Ésaïe 17, « En ce jour, ces villes fortes seront comme des débris dans la forêt et sur la cime des montagnes, abandonnés devant les enfants de l'Éternel, et ce sera un désert. » Est-ce que vous avez remarqué, dans le monde entier, lorsque vous regardez actuellement les informations, est-ce que vous avez remarqué que ces villes fortes, regardez les grandes villes, New York, Los Angeles, Paris, les villes d'Italie, de l'Espagne, en France, partout, au Canada, toutes les villes, ces villes-là, si on considérait ça comme des villes fortes, Montréal, New York, tout ça, des pays qui sont aujourd'hui comme des débris dans la forêt, sur la cime des montagnes, abandonnés devant les enfants d'Israël. Comme un désert. Regardez les rues de nos villes, de nos villages, de nos pays actuellement. tous sont désertes, les entreprises sont fermées, les églises sont fermées, les rassemblements sont interdits, divers services, diverses entreprises sont maintenant fermées et aux portes de la faillite, tout ça. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté Dieu. Il le dit ici dans Ésaïe 17, pour continuer le passage, « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Tu as aussi fait des plantations d'agréments. Tu as planté des ceps étrangers. » Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie pour les protéger. Ça veut dire ça qu'on s'est entouré, on a construit des choses merveilleuses, mais on s'est confié en ces choses-là plutôt qu'en Dieu. Et là, on a mis des barrières autour pour se protéger. Bientôt, ces choses ont commencé à fleurir, à prospérer. Mais tout à coup, la récolte a fui au moment de la jouissance. Et la douleur est sans remède. La douleur est sans remède. Les gens actuellement sont au chômage. Les gens actuellement n'ont plus de travail. Les gens actuellement ne savent pas comment ils vont pouvoir faire pour continuer à vivre. C'est un changement. C'est l'inconnu. C'est une douleur qui est sans remède. Et le seul remède, eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu. Voyez-vous? Dieu nous appelle à le servir, Dieu nous appelle à le chérir, à l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et encore une fois, lorsqu'on regarde le livre d'Ésaïe, j'adore le livre d'Ésaïe et je vous invite à aller le lire au complet et d'aller fouiller dans l'Ancien Testament. Plusieurs vont dire « oui, mais nous sommes sous la Nouvelle Alliance », mais la Nouvelle Alliance confirme également l'Ancienne Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, non pas pour les principes de la loi, mais pour ceux qui s'y retrouvent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent en ce moment qui étaient déjà prophétisées. Et pour revenir à ce que je disais, Ésaïe 55, lorsque je dis que Dieu nous appelle à le chercher, à se rapprocher de lui, dire entre autres, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Frères et sœurs, ne voyez-vous pas que depuis que les gens sont enfermés dans leur maison, depuis que les gens se retrouvent confinés à eux-mêmes, avec eux-mêmes, avec leur famille, que toutes les industries sont paralysées, l'économie, tout est arrêté. Regardez bien ce qui se passe sur la terre, dans la nature. Il y a des animaux qu'on ne voyait plus qui recommence à sortir. Il y a l'eau des fleuves, des rivières qui étaient de couleur douteuse, qui recommence à retrouver une limpidité, une clarté, une pureté. L'air lui-même commence à retrouver également une pureté. La nature elle-même commence à vouloir se régénérer. Et beaucoup d'autres choses, entre autres, également, qui se passent au niveau de la terre elle-même, parce que la terre était en train de suffoquer. La terre était en train de suffoquer sous notre poids, notre convoitise, notre avidité de l'argent, du plaisir, des choses, du matériel, notre péché. Et maintenant que nous sommes confinés dans nos maisons, avec nous-mêmes, que nous avons l'opportunité de méditer, de lire, de penser, de songer, de réfléchir, certains se sentent en prison, mais je sais aussi que d'autres se sentent libérés en ce moment de ces contraintes parce qu'ils sont complètement, leurs chaînes sont tombées. Les chaînes de l'obligation de produire, de travailler, les chaînes de toujours être enchaîné à son bureau, connecté sur les réseaux sociaux, ceci, cela, sont tombées. Oui, les gens vont encore sur les réseaux sociaux, c'est le seul moyen de communiquer actuellement. Mais ce n'est pas avec le souci de la performance qu'on connaissait il y a quelques jours seulement. Et je vous invite, frères et sœurs, et les gens qui écoutent ce message, qui ne sont pas chrétiens, vous avez l'opportunité comme jamais de vous rapprocher du Seigneur. de trouver un bon livre qui s'appelle la Bible, d'aller lire ce livre merveilleux, de méditer, de demander à Dieu de vous éclairer, de vous nourrir, de vous envoyer sur, de vous envoyer des visions, parce qu'il est écrit dans Joël, dans le livre de Joël, à la fin des temps, vos vieillards auront des songes, vos jeunes auront des visions, ou l'inverse, dans le bouleversement du message, j'inverse peut-être un peu les tâches, mais allez lire dans Joël, c'est dans Joël 3, je crois. Vos vieillards auront des visions ou des songes, et puis les jeunes, eux, auront des visions, peu importe, là, OK? Demandez à Dieu, que vous soyez vieillard, que vous soyez jeune, de vous donner des visions, des songes, des paroles, afin que vous puissiez voir, que vos yeux puissent s'ouvrir devant ce qui se passe actuellement, parce que le monde ne sera plus jamais pareil maintenant. Le monde ne sera plus jamais pareil parce que le monde est appelé à se repentir, à changer, à profiter de ce nouveau jour que Dieu a fixé et de se repentir, de ne pas endurcir nos cœurs si on entend sa voix. Vous savez, je lisais tout à l'heure Apocalypse et je suis tombé sur Apocalypse 3 et ce passage, c'est lorsque Dieu parle aux sept églises. Et l'Église aussi est appelée à changer dans ça. J'ai prêché souvent sur ça dans les messages. J'ai été dur envers les pasteurs, envers les frères, les sœurs. Mais c'est par amour. C'est par amour que j'ai été dur parce que c'est vrai que l'Église doit changer. Nous devons tous changer en tant que frères et sœurs. Notre façon de pratiquer nos cultes, notre religion, si je peux dire, entre guillemets, bien sûr. Je dis ça avec une certaine forme de sarcasme lorsque je dis ça. Notre façon d'opérer, d'apporter l'Évangile aux gens, de se comporter envers les gens du dehors et ceux qui ont des besoins. Et dans Apocalypse 3, lorsque Dieu parle, il faudrait que j'aille dans le passage numéro 1, malheureusement, je ne peux pas me reconnecter. Attendez, je vais aller voir pour voir si je ne peux pas trouver ça. Apocalypse 3, oui. Voilà. C'est lorsqu'il parle à l'église d'Éphèse. Voilà. Donc, j'ai pu aller le retrouver. J'avais juste souligné le principal. Il dit, « Je connais les œuvres, tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Ça, dans le gros, toutes les églises sont ainsi pour la plupart. Mais malheureusement, beaucoup de ces choses sont plus dictées par le devoir de la chair, le souci de bien faire, de bien paraître qu'autre chose, malgré la sincérité du geste. L'Éternel dit par la suite, lorsqu'on va au verset 4, et c'est là que ça confirme ce que je vous dis, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, justement? Ça veut dire que oui, l'Église, quelque part, s'est égarée. Ça ne veut pas dire que ses pratiques, ça ne veut pas dire que ses sentiments ne sont pas bons, mais l'Église s'est égarée. Les chrétiens se sont égarés. Les fidèles aussi. Et ça, nous avons un devoir nous-mêmes, alors là, de nous repentir, de se souvenir d'où nous sommes tombés et de pratiquer nos premières œuvres comme le faisaient les apôtres à l'époque. Sinon, Dieu va venir à nous, nous ôter notre chandelier. Et cela à moins qu'on se repente. Et c'est notre occasion à nous actuellement, avec ce qui se passe, de mettre en œuvre ce verset qui est un trésor. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pas dans mon habitude de faire des messages. Et habituellement, j'aime les messages qui sont préparés, étudiés, tout ça. J'aime bien faire les choses. Mais là, la situation, on est dans des situations d'urgence où est-ce qu'on doit faire de la médecine d'urgence. Les médecins sont obligés d'agir avec urgence actuellement. Moi, j'agis avec urgence avec les moyens que j'ai pour communiquer. de la même façon que vous, chrétiens, vous pouvez utiliser à votre façon aussi des façons différentes d'apporter l'évangile aux gens. Et là, lorsque je parle d'apporter l'évangile, je ne parle pas de faire comme on faisait avant, de se rassembler, de partager ceci, de partager cela, d'être des grands groupes ensemble, tout ça. On n'a pas besoin de tout ça pour apporter l'évangile à quelqu'un. On a simplement, en marchant dans la rue, avoir les yeux ouverts, les oreilles bien ouvertes, notre esprit largement ouvert et nos bras et notre cœur ouverts. Et lorsqu'on voit quelqu'un en détresse, quelqu'un qui est dans, qui a des problèmes, même s'il pue, même s'il sent, même s'il est sale, même s'il a l'air drogué, et que, oui, mais si je lui donne l'argent, je sais qu'il va aller s'acheter une dose ou boire. Frères et sœurs, ce que cette personne-là fait avec son argent-là, ce n'est pas de nos problèmes. Ce que Dieu regarde en nous actuellement, c'est le geste de notre cœur, la sincérité du cœur. Nous, qu'est-ce qu'on va faire devant une personne qui vient nous demander de l'aide? Si c'est une personne qui est droguée, qui vient demander de l'aide et que cette personne, en lui donnant de l'argent, elle vous dit « j'ai faim, je veux manger » et qu'elle va dépenser son argent dans la drogue, eh bien, elle sera tributaire devant Dieu de son geste, de son mensonge. Mais nous, ne soyons pas, justement, n'ayons pas à rougir devant Dieu lorsque nous paraîtrons devant lui, lorsque quelqu'un arrive devant nous, qui nous demande de l'aide, ou que parfois nous passons près de quelqu'un et que nous voyons que cette personne est en détresse. Et plutôt que de redire le coup et de passer tout droit, et ça, je me repens moi-même, ça m'est déjà arrivé ici en Haïti, plutôt que de redire le coup et de passer tout droit, aller vers ces gens et puis posez-leur des questions. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Et souvent, ces gestes-là, les gens le voient. Un chrétien, là, un vrai chrétien, lorsque tu le regardes, son visage est lumineux. Tu vois au travers ses yeux l'amour. Au travers ses paroles, il y a quelque chose qui transcende notre esprit, qui vient toucher les cœurs. Et c'est en tant que chrétien vraiment imprégné de l'amour de Jésus. On se présente à des gens qui sont en détresse, qui n'ont pas nécessairement dit « aidez-moi, aidez-moi », mais qu'on arrive vers eux, qu'on dit « est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? » Les gens vont ressentir l'amour de Jésus et sans même avoir dit un seul verset de la Bible, ces gens vont déjà être conquis et touchés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et c'est ce qui m'amène à dire en conclusion de ce message, de garder les oreilles ouvertes, les yeux ouverts au travers de cette détresse, cette angoisse que vous-même vous vivez, chrétien, chrétienne. Et là, vous vous demandez, mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Eh bien, c'est Dieu qui vous parle en ce moment, qui vous dit, oui, mais c'est parce que vous devez changer votre approche, votre façon de faire. Je suis là, je vous protège. Mais repentez-vous de votre façon de faire et agissez autrement maintenant afin que mon message, que mon témoignage puisse aller vers les gens que je désire toucher, et non pas rester toujours confiné avec ceux qui sont aimables, ceux qui sont gentils avec nous. Sinon, qu'avons-nous fait si nous sommes gentils qu'avec ceux qui sont gentils et aimables avec ceux qui sont aimables? Les païens n'agissent-ils pas ainsi? L'apôtre Paul nous le dit justement. Et souvenez-vous de Job, comment Job a été éprouvé justement. Job, un fidèle serviteur de Dieu, oui. Eh bien, Dieu a permis à Satan de l'éprouver. Pourquoi? Parce que Job avait lui aussi un péché qui n'avait pas été confessé. Le péché de ses fils. Et pendant tout le récit de Job, Job se demande, se lamente. Pourquoi? Mais jamais cependant, il ne s'est détourné de Dieu, il n'a renié Dieu. Et ça, c'est votre force, chrétien, chrétienne, de ne pas le faire, vous aussi, mais d'ouvrir votre cœur, votre esprit à Dieu, pour que justement, Dieu vous transforme, afin de devenir des vrais soldats, qui vont dans la mêlée, qui vont vers les gens. Regardez le Canada, ils ont dit, c'est pas impossible maintenant que l'armée soit déployée pour venir en aide au secours des gens. Qu'est-ce qu'a fait l'armée? L'armée ne reste pas regroupée dans sa caserne à ce moment-là, parce que lorsqu'il y a un appel, de un, ils s'entraînent à tous les jours, et là, lorsqu'ils ont un appel, Ils vont vers les gens pour les aider, sans intérêt, rien. Eh bien, Job a dit, lorsque l'Éternel l'a guéri et que l'Éternel lui a redonné le double de ce qu'il possédait déjà, le double, imaginez. Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Alléluia. Frère et sœur bien-aimé, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur et cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve encore, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et que le méchant qui écoute cette prédication abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui, lui, aura pitié de lui, de vous, de nous, de moi? À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Père éternel, merci encore pour une fois pour ce passage, ce message. Merci de m'avoir utilisé. J'étais tellement incertain de ce message ce matin lorsque je t'ai prié. Mais encore une fois, j'ai bien vu que ton onction est descendue. Et je te remercie, Seigneur Dieu, d'être un instrument dans tes mains. Et je te prie de faire de mes frères et sœurs tout partout dans le monde des instruments dans tes mains également. Et que chacun d'eux puisse se déployer tout partout pour aller au secours des gens. Et non pas rester regroupés. Parce que lorsqu'on reste regroupé, on est à la fois une force, mais on est notre pire faiblesse. Parce que lorsqu'il arrive un bombardement, c'est là que tout éclate et que tout est détruit. Alors que si nous sommes tous regroupés, petit par petit, petit groupe par petit groupe, petite cellule par petite cellule. Comme l'Éternel dit, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Alors là, nous sommes plus qu'une armée, nous sommes des commandos au combat qui vont partout pour circonscrire le mensonge de l'ennemi au travers les gens pour venir leur porter de l'amour, leur prêcher l'amour et leur apporter le témoignage de Dieu de façon directe. Alors, je vous laisse là-dessus, frères et sœurs en Christ. Merci encore une fois pour votre écoute. Et n'hésitez pas à partager ces messages. Ces messages-là sont faits avec humilité, sans prétention. Ces messages-là ne sont pas faits avec le but de trouver une gloire quelconque. Peu m'importe, mes amis, peu m'importe. Mais c'est simplement de pouvoir passer le message de l'Évangile. Et vous le voyez vous-même de toute façon. Si vous écoutez la qualité audio du message, vous allez bien voir que si je cherchais, si c'était par orgueil et que je cherchais la gloire ou autre chose, j'aurais procédé d'une toute autre façon. Alors, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur également puisse vous faire une infusion de son sang afin de vous immuniser, vous protéger contre toute maladie, contre tout virus, contre toute bactérie et microbe, tant naturel que spirituel, au nom de Jésus de Nazareth.